chez vous, ça doit être toute la nuit. Faut pas ralentir, c'est vrai, I think about you all the time. Chaque fois que je monte à Pamenda, mon corps me dit que je bacaille ou Allah. C'est vrai, c'est quoi, tu veux mon cœur, c'est bam 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 bam. Je pense toujours à toi, tous les jours quand je me lève. T'es toujours dans ma tête, je ne veux pas que tu me laisses. Moi je suis dans la mer, si seulement je pouvais faire, si seulement je pouvais te faire.
De la paix. Il est 12h. Le journal de midi. Zeynab Diomandé.
Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de l'actualité, le PPACI analyse et rejette les résultats des dernières élections municipales, régionales et sénatoriales. Des résultats pas crédibles selon le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Et puis la hausse du prix du carburant en Côte d'Ivoire pourrait inéluctablement conduire à une augmentation des prix du transport en commun, selon le président de la Fédération nationale des syndicats des chauffeurs uniques de Côte d'Ivoire, que vous entendrez dans ce journal. À l'étranger, à Madagascar, tir de gaz lacrymogène sur les candidats de l'opposition. Nous aurons également un dossier d'actualité proposé par notre correspondant dans le Tonkoui relativement à la hausse du prix du riz dans la région. Et en toute fin de journal, nous retrouverons Soro Adams qui reçoit dans l'invité de la rédaction Dr Bangali Ngoran, maître de conférence d'histoire des relations internationales à l'université Jean Lorugnon Guédé de Daloa. Il fera la lumière sur la récente plainte déposée à la Cour de justice de la CEDEAO par le président renversé du Niger, Mohamed Bazoum, pour obtenir sa libération. Le PPACI se dit pas du tout affecté par sa large défaite lors des récentes municipales, régionales et sénatoriales, car soutient-il, ces échéances qui ont vu la victoire écrasante du RHDP ont été entachées d'irrégularités, d'où le combat que le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire entend désormais engager pour des élections futures crédibles. Cette annonce a été faite ce samedi lors d'une conférence de presse de son porte-parole Koné Katinan, qui a livré les décisions d'un secrétariat général extraordinaire tenu quelques heures plus tôt. Là-dessus, ce compte-rendu de Francis Cassie.
C'est avec à ses côtés les professeurs Hubert Oulay et Sébastien Dalondjidje, également cadre du PPACI, que son porte-parole, animant la conférence de presse, a clairement dit que son parti n'est nullement inquiet par rapport à ses récents résultats électoraux. Koné Katinan.
Nous ne rougissons pas du tout de notre défaite, si on peut l'appeler ainsi. Le PPACI rejette les résultats des élections locales et sénatoriales qui ont été obtenus pour l'essentiel par des manœuvres frauduleuses.
Et Katinan de justifier ainsi ce qu'il appelle fraude.
Les nombreux recours introduits devant le Conseil d'État témoignent du manque de fiabilité de la CEI. Le non-affichage des listes électorales devant les bureaux de vote, le transfert à leur insu d'un grand nombre d'électeurs dans des bureaux de vote autres que ceux dans lesquels ils votent d'habitude, etc., sont des marques visibles d'une fraude organisée au niveau de la CEI. Au total, toutes les institutions de l'État de Côte d'Ivoire ont été mobilisées pour que le RHDP arrive au résultat qu'il a voulu, y compris les deniers publics de l'État utilisés pour arriver à ces résultats-là.
D'où, selon lui, ces batailles prioritaires que le PPACI va mener.
Le parti a érigé au rang de ses priorités de premier ordre la réforme totale de la CEI dans le sens d'une plus grande impartialité de cet organe. La réforme totale de la liste électorale afin d'en expurger toutes les anomalies qui favorisent la fraude. Le découpage électoral ne peut rester dans son état actuel.
Le PPACI a aussi décidé de faire de l'inscription sur la liste électorale de Laurent Gbagbo, son président, sa priorité absolue, a ajouté Koné Katinan, son porte-parole.
Et toujours dans le chapitre post-électoral, la cérémonie de passation de charge entre le maire sortant de Brobo et son successeur s'est déroulée le week-end dernier sous la supervision du secrétaire général 1 de la préfecture de Boaké. Les deux personnalités se sont engagées à travailler ensemble en vue de booster le développement de leur localité, nous dit Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Boaké.
Abrobo, commune située dans le département de Boaké, les élus locaux et les cadres décident de transcender leurs divergences pour contribuer au développement de leur localité. C'est ce qui nous a été donné de constater à l'occasion de la cérémonie de passation de charge entre le maire sortant, Yao Kwame Séraphin du PDCI, et son successeur, Louis Kwaku Abounoua du RHDP. Extrait des propos du premier cité.
Il ne me revient pas, en tant que premier responsable politique de Brobo, puisque je suis député, de créer une fracture. Mon travail à moi, c'est de faire en sorte que tout le monde, la population, les conseillers, soient mobilisés autour du maire qui a été désigné. Place au travail et que le maire et sa nouvelle équipe puissent déployer sa vision et ses activités au profit de Brobo.
Désormais donc à la tête de la commune de Brobo, le maire Louis Kwaku Abounoua a décliné à la presse sa vision au profit de ses administrés.
Un plan stratégique quinquennal 2023-2028 qui s'attellera à travailler sur le développement social, économique, environnemental et culturel de Brobo. Ces quatre pôles vont engager pratiquement 12 chantiers. Et la vision est claire, c'est le développement intégral et durable de Brobo.
A noter qu'avant la cérémonie de passation de charge, le nouveau maire de Brobo a rendu visite à ses adversaires à leur domicile en vue de consolider davantage la fraternité, la convivialité et le vivre ensemble. Joseph Assalé, Brobo, Radio de la Paix.
Parlons d'infrastructures sanitaires, le gouvernement ivoirien a offert un bâtiment flambant neuf et des matériels roulants destinés au programme national de lutte contre le paludisme PNLP. C'était le jeudi 28 septembre 2023 à Abidjan-Cocody. Compte rendu signé Matatouré.
Il s'agit entre autres de 15 fourgonnettes et d'un bâtiment équipé d'un montant total d'1,3 milliard de francs CFA. À travers cette occasion, le Fonds mondial, via l'UNICEF, a offert 15 motos. Des véhicules vont faciliter la distribution d'outils de prévention, en particulier les moustiquaires. Ils permettront aussi de garantir un accès élargi à la protection pour la population dans les 113 districts sanitaires. Pierre Ngou Demba est le ministre chargé de la Santé.
Ce financement important va assurément donc améliorer la coordination nationale de la lutte contre le paludisme.
L'objectif zéro paludisme en Côte d'Ivoire est en bonne voie. Le pays note des avancées significatives. En témoignent les propos de Jean Marie Vianney, représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire.
Je vois que la cérémonie s'inscrit dans la dynamique d'amener les intrants le plus proche possible des populations, comme on le dit, au dernier kilomètre, parce que c'est là où se trouve la demande.
Le PNLP a reçu en 4 ans 100 fourgonnettes financées par l'État ivoirien en collaboration avec le Fonds mondial d'une valeur de 2,2 milliards de francs CFA.
Les prix du carburant sont en hausse depuis hier dimanche 1er octobre en Côte d'Ivoire et cela pourrait aussi conduire à une augmentation des prix du transport en commun à cause de certains paramètres dans ce milieu, d'après le président de la FENACUS-SI, Fédération Nationale des Syndicats des Chauffeurs Uniques de Côte d'Ivoire, Yacouba Diakité, joint par Francis Kassi.
Les transporteurs vont augmenter le transport. Les chauffeurs ne vont pas accepter qu'ils payent beaucoup de faux frais sur les routes et puis ils vont encore aller augmenter les carburants pour mettre sur eux. Tout n'est pas qu'ils augmentent les transports. On n'a qu'à signer les faux frais. C'est tout. Mais au moment que les faux frais sont là, le transport sera augmenté.
C'est quoi vous appelez faux frais?
Le faux frais, chaque arrêt, chaque débarquement, c'est où les bagages déchargent. Il y a un individu qui se dit Yamouro, je suis en train d'encaisser sur toutes les routes. Tant que tu étais à Boaké, il paye seulement 5 personnes à Yamtoukro. Les syndicats sont là-bas pour encaisser et puis il a rendu 2 personnes à le transporteur. Le transporteur voulait de vous monter parce que le chargement a pris, il a payé. Et puis encore, il vient de descendre quelqu'un et puis on lui a encore de payer. J'ai envie d'en payer là. Les faux frais aujourd'hui est plus cher plus que l'augmentation de carburant. L'augmentation de carburant, là, ce n'est rien. C'est le mondial qui a augmenté, mais l'eau va venir de la Côte d'Ivoire. Le point clé que je te dis, c'est les Niamoro qui sont sur les grands voies, sur les routes là, les faux frais, et qu'ils achètent au dehors de la terre là. Le risque va diviser ça complètement. Et puis le contrôle, c'est non force de demande de sécurité. Pour les 10 communes d'habitants, les policiers sont sortis partout. Si à Pierre, n'a pas Pierre, tu as payé 1 000 francs, 2 000 francs. Pourquoi?
Nous écoutions à l'instant Yacouba Diakité. Il est le président de la Fédération nationale des syndicats des chauffeurs uniques de Côte d'Ivoire. La 8e édition de la JTC, la journée de l'interprétation et de la traduction, s'est tenue ce vendredi 29 septembre 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire. Cette rencontre a été l'occasion pour les cabinets de traduction de mieux présenter leurs services au public, mais prioritairement aux acteurs événementiels et du tourisme d'investissement. Les détails avec vous, Didier Blé.
Exposé, panel, simulation d'interprétation en cabine, partage d'expériences et tout cela autour du développement organisationnel des prestataires de langue. Ceci joue un rôle essentiel dans la survie d'autres entreprises. Hervé Sébastien Gueye, commissaire général de la JTC.
On est allé un peu plus loin sur les questions centrales du métier. Les questions d'organisation, tarification, les questions de valorisation, les questions qui concernent le secteur, le marché, afin de répondre sérieusement et de façon professionnelle aux attentes des gens qui viennent vers nous.
Cette 8e édition vise le dialogue entre les prestataires de langue et ceux des services liés aux événements professionnels. Docteur Floranian, chef d'entreprise et exposante.
On espérait avoir le monde de l'événementiel et les prestataires du tourisme. On en a eu quelques-uns. On espérait donner une vision professionnelle à notre corporation, présenter nos tarifs et leur dire que il y a un groupement d'interprètes traducteurs professionnels.
Entre innovation et nouvelles exigences, les traducteurs se mettent à niveau sans relâche. Ibrahim Doumbia.
Au niveau de l'interprétation médicale, il faudrait que l'interprète puisse comprendre le sujet du médecin. Donc il y a des études poussées pour pouvoir comprendre les différentes maladies. Il peut aider le médecin à donner la posologie qu'il faut.
Et tout cela au bonheur des étudiants des facultés de langue.
Toro, tu es réanimé. Le contenu est super. On a eu des experts et c'est vraiment important pour nous qui faisons l'anglais. Ça nous permet de connaître plus.
Cette édition 2023 de la JTC a également vu le lancement officiel de la première application en Côte d'Ivoire de collecte et de traduction professionnelle.
Et puis cette page noire, l'ancien président de la commission électorale indépendante Youssouf Bakayoko est décédé le samedi 30 septembre en France. L'annonce de sa mort a été faite hier dimanche par le ministre Boaké Fofana, par ailleurs cadre de la région du Ouro-Dougou. Rappelons que Youssouf Bakayoko a été ministre des Affaires étrangères du 28 décembre 2005 au 12 février 2010, puis député de la nation de 1995 à 2000. Il a également été vice-président de la commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale avant sa nomination à la présidence de la commission électorale indépendante en février 2010. Youssouf Bakayoko était membre du bureau politique du PDCI RDA. À l'étranger, les forces de l'ordre malgaches ont fait usage de gaz lacrymogène lundi contre des candidats de l'opposition à l'élection présidentielle du 9 novembre qui convergeaient avec quelques centaines de soutiens vers une place du centre de la capitale. Les préparatifs en vue de l'examen sur la grande île de l'océan Indien se déroulent depuis plusieurs semaines dans un climat qui ne cesse de se détériorer en 11 candidats et opposants dont l'ex-président Marc Ravalomanana avait appelé à se rassembler en début de matinée sur la place du 13 mai, théâtre de toutes les contestations politiques de Madagascar pour faire entendre leur voix. Depuis quelque temps, le coût du riz importé a augmenté, une situation qui pousse les consommateurs de Mans à s'orienter vers le riz local. Malgré ce geste, les consommateurs ne savent à quel sens se vouer vu que le panier de la ménagère continue de subir des coûts. Plus de détails dans ce dossier d'actualité de Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkin.
La hausse du prix du riz importé en Côte d'Ivoire est une aubaine pour les transformateurs locaux du riz local dans la ville de Mans de voir le chiffre d'affaires grimper. Une forte demande de la clientèle. Ali Diakité, responsable d'une usine de fabrication de riz local, en dit plus.
Les clients, ils préfèrent le riz local. C'est fabriqué chez nous ici. Donc ils préfèrent ça par rapport à leur santé que le riz importé. Par mois, il y a des périodes, le riz blanchi, on peut aller dans 70 tonnes dans le mois. Mais à partir de janvier, jusqu'en mois de juin, on peut aller dans les 70, 80, 100. Mais à partir du mois de novembre, décembre, souvent on peut aller dans les 60 tonnes, 50 tonnes. On pile le riz 1 kg à 25. Pas le riz padé. Quand on finit de faire la transformation, c'est le riz blanchi qu'on pèse. Si ça fait 50 kg, on calcule les 25, 25 et puis on lui paye ça. Donc pour nous, ça n'a jamais augmenté.
Cette situation fait l'objet d'inquiétudes chez les consommateurs à l'image de Keïta Vagondo.
Le riz importé au local, tout est devenu cher. Il n'y a pas un riz qui est moins cher actuellement. Il n'y en a pas. Dans le temps, le riz était à 200, 250 ou 300 francs. Le kilo. Actuellement, on est à 450, 500. Ça pèse trop. On ne peut pas avoir la terre où la terre est fertile. On a la pluie. Et puis, on achète le riz 1 kilo à 450, 500. Ce n'est pas normal.
Zolou Yvonne est commerçante du riz local à Mans. Elle donne les raisons de l'augmentation de ce produit de grande consommation sur les différents marchés de Mans.
Si le temps de riz arrive là, on va en brousse et puis on paie là-bas. Le riz là, c'est devenu cher. Donc si on nous a donné cher comme ça là, nous on envoie là, on gagne rien dedans. Quand nous on parle, on dit que prix d'un produit là c'est monté. Le printemps, le transport là est cher. Avant là c'était 1500 mais maintenant là, c'est 2000. C'est à cause de ça on vend ça maintenant à 450. Le kilo avant là c'était 425. Il y a deux qualités encore. L'engrais parfumé, le kilo à 500.
Pour valoriser le riz local et permettre aux Ivoiriens de moins consommer l'importé, Ali Diakité, ce responsable de l'usine de fabrication de riz local à Mans, lance un appel aux autorités compétentes.
Ce qu'on demande à l'État, c'est les mêmes semences que les planteurs reproduisent chaque année. Or, il y a un moment, quand tu replantes ça, le goût change. Le riz aussi, ça change. Mais quand il y a les nouvelles semences, chaque deux ans, là, le riz soit la bonne qualité. Donc, nous, on voudrait que l'État vraiment s'occupe au niveau des semences, au niveau des planteurs et les encadrer.
Rappelons que le panier de la ménagère continue de prendre des coups. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
L'invité de la rédaction aujourd'hui est Dr Bangali Ngoran, maître de conférence d'histoire des relations internationales à l'université Jean-Lourignon-Guédé de Daloa. Avec lui, il est question de la saisie de la Cour de justice de la CEDEAO par le président déchu Mohamed Bazoum pour obtenir sa libération ainsi que celle de sa famille et pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. La requête déposée le 18 septembre 2023 invoque une arrestation arbitraire, une violation de la liberté d'aller et venir. Dr Bangali Ngoran, invité de la rédaction dans un entretien conduit par Soro Adams.
Bonjour Dr Ngoran Bangali.
Bonjour.
Dossier du Niger, le président déchu Mohamed Bazoum a saisi la Cour de justice de la CEDEAO sur son cas. À quoi faut-il s'attendre en termes de décision de cette juridiction?
La Cour de la CEDEAO émet des décisions de justice qui, en vertu de la ratification des États membres de son protocole de création, sont revêtues de la force exécutoire. Mais comme dans la plupart des cas, que ce soit au niveau de l'Union africaine avec la Cour africaine des justices et des droits de l'homme, ces institutions n'ont pas véritablement les moyens institutionnels de faire pression directement aux États parties afin de voir ces décisions-là traduites dans les actes. Donc la première des choses à laquelle on peut penser, c'est certainement après le chèque, en tout cas l'embourbement de la tentative de résolution diplomatique, également la menace d'une intervention militaire qui s'éloigne de jour en jour, c'est une nouvelle porte qui n'est ni diplomatique, ni n'ayant pas trait non plus à une intervention armée, qui a trait à la justice, une nouvelle porte qui s'ouvre. Mais ça demande surtout la résistance, puisque cette résistance de Mohamed Bazoum a commencé d'abord par son refus de signer une démission. Et au-delà de cela, il a, disons, apporté son accord de principe au projet d'intervention militaire. Et puis, après cela, il a continué de garder cette position, soutenue bien sûr à l'international par plusieurs acteurs de premier plan. Au fur et à mesure qu'on avance, que les cartes qui étaient entre la main de ceux qui défendaient sa cause sont en train de se réduire, il ne lui reste que ce dernier recours de la justice pour continuer dans la résistance. Donc c'est surtout une procédure symbolique de l'homme qui refuse justement qu'on utilise la justice à travers sa démission la signature de sa démission pour obtenir ce qu'on veut. Donc il veut lui-même utiliser la même arme que les putschistes ont essayé d'utiliser contre lui.
Mais les décisions, d'éventuelles décisions de la Cour de la CEDEAO, seront-elles reconnues par la junte? Seront-elles appliquées par la junte?
Il faudrait d'abord que la junte accepte de participer à cette procédure parce que la Cour de la CEDEAO a notifié officiellement à la junte la plainte qui a été portée et lui a laissé un délai pour pouvoir constituer sa défense et donc apporter sa contribution au procès. Et jusque-là, pour le moment, il y a encore un silence radio parce qu'il est clair que pour la junte, il y a déjà la conviction que la CEDEAO a un parti pris dans le dossier Bazoum, ou en tout cas dans le dossier du conflit inter-nigérien. En sorte que la démarche vienne de la Cour, de la CEDEAO ou de la Conférence des présidents, pour elle, il s'agit du même acteur qui, disons, revient sous un nouveau visage, selon que ses premières tentatives ont débouché sur une situation de blocage ou d'impasse. Et donc, il y a déjà ce conditionnement, que ce soit dans l'opinion publique nigérienne ou au sein de la junte, qu'une démarche, une procédure qui vient de la CEDEAO vise déjà à condamner la junte. Donc, il me semble peu probable qu'elle accepte de jouer le jeu déjà. Voilà. Et puis, même si elle est condamnée par défaut, ben, elle continuera, disons, cette orientation d'ignorer complètement les décisions venant de cette Cour.
Et dans ces conditions, que peut faire la Cour si Niamey refuse de s'exécuter en cas de condamnation?
Pas grand-chose. Comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, la faiblesse justement de ces dispositifs de justice, que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit également au niveau de la CEDEAO, c'est que les décisions sont revêtues d'une autorité exécutoire, mais ces institutions n'ont pas les moyens de faire contrainte aux États parties, aux États membres, de sorte que la décision sera certainement proclamée et puis elle restera suspendue, parce que ces institutions n'ont aucun moyen pour exercer la pression sur ces différents États. Étant entendu, bien sûr, que déjà la CEDEAO elle-même a utilisé tous les autres moyens de pression dont elle disposait, notamment les sanctions économiques, les sanctions individuelles contre les différents membres de la junte. Alors, tout cela, aujourd'hui, on est arrivé à une situation où la junte militaire au Niger est immunisée, en fait. Donc, le fait d'être immunisé contre les sanctions, finalement, ça fait que une sanction de plus que cela provienne d'une condamnation qui vise quelques personnes de la junte, ça ne vient pas changer grand-chose. Donc, je pense qu'ils vont continuer d'ignorer et la procédure et la CEDEAO à partir du moment où cette institution ne va pas dans le sens de ce qu'eux souhaitent, c'est-à-dire d'acter le fait qu'ils détiennent désormais la réalité du pouvoir.
Je vous remercie, docteur Bangali Ngoron.
Merci, c'était un plaisir.
C'est la fin de ce journal, le rappel de l'essentiel. Le PPACI analyse et rejette les résultats des dernières élections municipales, régionales et sénatoriales, des résultats pas crédibles selon le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. La hausse du prix du carburant en Côte d'Ivoire pourrait inéluctablement conduire à une augmentation des prix du transport en commun, selon le président de la FENACUS-SI, Fédération nationale des syndicats des chauffeurs uniques de Côte d'Ivoire, que vous avez suivi. Et puis à Madagascar, tir de gaz lacrymogène sur les candidats de l'opposition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez maintenant Didier Blé pour la revue de presse.
Bonjour à tous et bienvenue. Une des informations qui fait le chou gras de la quasi-totalité des tabloïds ivoiriens, c'est bien la hausse du prix du carburant. À partir du 1er octobre 2023, le litre du Super 1 passe de 815 à 875 francs et celui du gasoil de 655 à 715 francs, soit une hausse de 60 francs, a annoncé le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafo Wakoulibaly. C'est au cours d'une conférence